mercredi.
Mercredi.
Mamie, on est grosse mercredi.
Mercredi, mais c'est quoi?
C'est trop nul, mamie. Tu connais mon préservation, l'armada.
Ben, explique-moi alors.
Ben, l'armada, c'est trop bien. C'est des gens qui font des spectacles de musique, de grands pour les enfants.
L'armada, oui, mais mercredi.
Une émission de grands pour les enfants.
Le parcours de la mer à l'assiette. Le pêcheur part du port, il pêche, il ramène son poisson au port. Ce poisson passe par la criée, il arrive très souvent entre les mains des mareyeurs et des filteurs qui vont le transformer pour qu'il réponde aux exigences des consommateurs, donc le mettre en filet ou prélever les joues, etc. Puis il va passer par un transporteur qu'il va l'amener, on peut imaginer, dans un restaurant à Perpignan ou dans un hôpital à Lyon, et là être consommé par le consommateur.
Si l'émission durait 1 minute 30, voilà ce qu'on vous dirait sur le parcours d'un poisson de la mer à ton assiette. Mais comme tu le sais, les choses ne sont pas tout le temps si simples. Et si on simplifiait comme cela, beaucoup diraient...
Mais c'est n'importe quoi.
Mais c'est n'importe quoi.
Et ça, c'est une émission pour enfants.
C'est ça qu'on dit à la jeune génération.
Malo ?
La filière peut varier énormément, puisque le poisson ne va pas forcément passer par toutes les étapes. Il peut très bien arriver directement, les poissonniers peuvent très bien directement venir à la criée, ou des personnes qui travaillent dans les marchés, pourquoi pas. Ou au contraire, le poisson peut passer par plusieurs acteurs. On peut imaginer un mareyeur, puis une centrale d'achat qui va répartir son poisson après dans ses différents supermarchés. Donc avoir un schéma type, c'est assez compliqué et ce serait un peu mensonger.
Alors, puisqu'on a une demi-heure pour en savoir plus, allons directement sur le port de Lorient. Parce que le port de Lorient, c'est quand même le deuxième port de pêche français en volume de pêche. Lorient, c'est en Bretagne, c'est sur la côte sud de la Bretagne. C'est là où, par exemple, on prend le bateau pour aller à Groix. C'est une super belle île. D'ailleurs, c'est pas si loin que ça de Belle-Île. Une autre île. Tiens, un bureau avec des gens dedans qui nous regardent. C'est pas très étonnant en même temps. Deux filles qui se trimballent avec un micro et un casque sur un port, ça doit pas être très courant. Allez, on va leur dire bonjour, et surtout, on va leur demander qu'est-ce qu'ils font, eux, sur le port la journée.
Je suis François Cuvy, le responsable du pôle halieutique du port de pêche. Donc, je m'occupe plus particulièrement, donc des chargements de poissons sur le port, du tri qui peut se passer la nuit, et ensuite de la commercialisation du poisson qui peut se faire aux enchères ou alors une commercialisation qui peut être faite de gré à gré. Et ensuite, il y a toute la logistique de livraison, de chargement de camions qui se passe, des opérations qui vont se passer après la vente.
Alors, on est sur le port de Lorient au bureau de la pêche. Combien de kilos ou de tonnes de poissons arrivent à peu près chaque jour avec les bateaux pêcheurs?
Alors, plusieurs types de bateaux ici sur le port de Lorient. On a la pêche côtière, donc des bateaux qui fréquentent le port tous les jours, qui font 24 heures de... ils font une marée en 24 heures, ils partent en mer, ils reviennent, ils débarquent leurs marchandises et ils repartent quasiment dans la foulée. Ces bateaux-là, additionnés, peuvent alimenter le port jusqu'à 30 tonnes par jour. Ça varie tout au long de la semaine. On a en général les lundis qui sont des toutes petites journées. On arrive entre 5 et 10 tonnes. Les jours suivants, mardi, mercredi, jeudi, on arrive peut-être à une quinzaine de tonnes. Et les vendredis et samedis, qui sont les journées les plus importantes pour ce type de pêche, on peut vendre entre 20 et 30 tonnes.
Et qu'est-ce qu'on pêche du coup dans le port de Lorient ?
Du poisson, de l'arrêt du camillon.
Est-ce que vous pouvez nous décrire le port dans lequel on est ?
Ah bah écoutez, alors le port de Lorient, c'est un port, c'est assez vaste. Hein, le port fait une superficie de 55 hectares, hein, c'est ce qui est pas mal. On accueille donc sur ces 55 hectares des entreprises diverses et variées qui ont pour la plupart un rapprochement avec le milieu de la pêche, ou au milieu halieutique au moins, le milieu marin. On a des ateliers mécaniques, on a des ateliers de ramandage de filets, on a des fourniers ship, hein, qui vont fournir les bateaux en matériaux divers et variés, et aussi en matériel et en victuailles aussi. On a sur le port aussi l'ARN, l'aire de réparation navale, qui va se charger de faire monter les bateaux à sec pour les remettre en état, pour l'entretien annuel. Voilà. Un bateau, c'est une petite entreprise qui fait fonctionner des tas de petite autre entreprise, quoi.
Et on a vu en arrivant deux dames qui avaient avec elles un grand bac blanc en polyester avec du grand poisson. On peut donc acheter du poisson ici aussi.
Ah oui, oui. Alors on a un marieur qui est spécialisé, qui a également qui tient une poissonnerie qui est sur le site du port de pêche, évidemment. Dans cette poissonnerie est ouverte à n'importe qui, à tout le monde, hein, on va dire, et tout le monde peut venir chercher du poisson plus que frais sur le port de Lorient.
Messieurs les marieurs, vous ne trouverez pas meilleur. Débarquez sur le quai, regardez comme il est frais. Videz, triez, pesez, achetez.
Là, on se trouve dans le bâtiment qui sert de lave-vaisselle au port de pêche de Lorient. Donc, c'est un bâtiment qui est assez ancien, qui ne paye pas de mine, dans lequel ça ne sent pas forcément très bon, mais qui est un bâtiment essentiel pour le coup. Donc, l'entrée là, par laquelle on vient d'accéder, c'est là où on met les caisses qui n'ont pas encore été nettoyées.
Alors lui, c'est Malo, médiateur scientifique à la Maison de la Mer à Lorient. C'est lui qui va nous guider dans le parcours détaillé du poisson.
Ce bâtiment, il a vraiment été pensé. Vous mettez les caisses d'un côté, elles arrivent en tas sales. Vous les récupérez en tas propres de l'autre côté.
C'est des caisses dans lesquelles il y a du poisson ?
Voilà, c'est toutes les caisses qui sont utilisées par les pêcheurs pour entreposer le poisson.
Toutes les caisses appartiennent au port ?
Non, bonne question. En tout cas, pas au port de pêche de Lorient. Les caisses jaunes et bleues sont des caisses du port de pêche de Lorient. Après, on va trouver d'autres caisses d'autres ports ou d'autres pays. On a un tas de caisses qui sont vertes, rouges ou jaunes là-bas, qui appartiennent aux Espagnols. C'est des caisses espagnoles. On a des caisses bordeaux, noires, blanches qui appartiennent là-bas à des ports écossais ou irlandais. En fait, on va pêcher vers l'Écosse ou vers l'Irlande. De la même façon, d'autres pays dans le monde viennent pêcher vers chez nous.
Les caisses ont des couleurs différentes en fonction des pays, mais est-ce
des
que ça veut dire...
Ports.
Des pays et des ports, mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'il y a des pêcheurs d'ici qui vont pêcher pour l'Espagne, qui vont pêcher
non.
pour l'Écosse ?
Non, non. La pêche hauturière fonctionne beaucoup sur le principe de la base avancée. Ça veut dire que votre bateau va pêcher très loin, mais il a un port qui sera pas très loin de sa zone de pêche, dans lequel il pourra venir décharger ses poissons, déposer à terre aussi une partie de son équipage. Quand ils déchargent leurs poissons, ils vont manquer de caisses. C'est pour ça que dans les ports en Écosse ou en Irlande, ils ont aussi des caisses qui appartiennent au port de pêche de Lorient, qu'ils peuvent donner aux pêcheurs français pour qu'ils puissent aller pêcher leurs poissons.
Mais leurs poissons, du coup, qui se retrouvent sur ces ports-là, ils sont acheminés ensuite en France ?
Tout à fait. Tout à fait. Donc le temps peut varier, mais on va nous ramener les poissons qu'on pêche en Écosse par camion. Pourquoi par camion et pas par bateau ? Parce que le bateau, ça prendrait beaucoup trop de temps et ça coûterait beaucoup trop cher. L'avion, ce serait évidemment beaucoup plus rapide, mais ce serait beaucoup trop cher et beaucoup plus polluant. Donc le camion reste encore le juste milieu.
Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau ? Un petit poisson.
Ça sent vachement fort l'animal. Le caca de souris ou de cochon d'Inde, non ? Tu trouves pas ?
sorte de crevette séchée. Ah oui, shrimps.
Qui nage, qu'elle en voudrait bien changer au cours du voyage. Ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en
si on peut aller voir la criée.
Oui.
La criée, ça s'appelle comme ça parce qu'on crie.
Oui, on en parlera là-bas si vous voulez. Je veux juste.
Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne la rage qui apporterait du ciel. Il n'y a plus qu'un message.
Pourquoi on appelle ça une criée? Parce qu'avant, tout se faisait en criant. On avait le crieur qui était au milieu des caisses de poissons, entouré des différents acheteurs, et qui criait « Et maintenant, j'ai un stock de merlu de 10 kilos !» Et les potentiels acheteurs se signalaient par différents moyens, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs très visibles, et donc qui pouvaient devenir discutables. Et celui qui faisait la plus grosse enchère obtenait les caisses de poissons. Maintenant, ça ne se passe plus comme ça. Maintenant, on a les différents acheteurs qui regardent les écrans que l'on a ici. Sur les écrans sont projetées toutes les informations qui, avant, étaient énoncées par le crieur. Ces informations, elles ont été rentrées dans l'ordinateur par un opérateur qui se situe juste à l'entrée de la salle. Cet opérateur va rentrer dans l'ordinateur tout un tas d'informations. Évidemment, numéro de l'eau, le nom du bateau, et l'espèce des poissons, la présentation, s'il est entier, etc. Sa fraîcheur. Sa taille, son poids, tout un tas d'informations qui vont servir après à l'acte d'achat. Les informations sont donc projetées, ainsi que le prix. Et le premier acheteur qui se signale, en l'occurrence avec des petites télécommandes qu'on fournit à chaque acheteur, le premier acheteur qui se signale achète le poisson.
Donc maintenant, la criée est très silencieuse.
Alors là, oui, il est 4h de l'après-midi, donc la criée est silencieuse.
Ça commence à 3h du matin.
Alors, ça dépend des ports, ça dépend des habitudes des pêcheurs, ça dépend de la culture du port aussi, ça dépend de l'objectif. Ça veut dire qu'un grand port comme l'Orient, qui va pêcher chaque année en gros entre 24 et 26 000 tonnes de poissons, qui a pour objectif d'aller de fournir du poisson à toutes les personnes en France et en Europe aussi potentiellement, est obligé d'avoir une criée qui est suffisamment tôt le matin pour permettre aux différents fournisseurs d'atteindre Paris pour la demi-journée, etc. etc. Dans d'autres ports, on va avoir la criée l'après-midi parce que c'est une criée qui peut être plus directe, ouverte potentiellement au grand public. Et le grand public ne viendra jamais à 4 heures acheter son poisson.
Mercredi ? Tu connais pas mercredi ? Ben enfin, c'est trop bien.
Comme si vous vous adressiez à votre
petite fille.
Oui.
Et d'être. C'est pas terrible quand je m'adresse à ma petite fille.
Antoine, la Marie-Michaël. Ah, lui vient me prendre.
Alors, là, ce qu'on est en train de voir, c'est on a un pêcheur qui vient de rentrer au port avec sa dizaine de caisses de poissons. Il vient d'arriver devant ce grand tableau où on a toute une suite de plaques. Sur ces plaques, on a les noms des bateaux. Et donc, le pêcheur qui va pêcher sur le petit Romuald ou sur le Penfret va prendre la plaque Penfret, la poser sur ses caisses de poissons. Comme ça, tout le monde au port de pêche saura à qui appartiennent les poissons. Le pêcheur, comme on vient de le voir, il va ensuite amener ses poissons dans les chambres froides. Alors, on a deux chambres froides là qui vont être embriquées l'une dans l'autre. La première, c'est une chambre humide dans laquelle on va brumiser de l'eau de mer. Quand elle est en activité, on a du mal à discerner le fond de la pièce. On va pas rentrer plus loin. Donc la première chambre froide, c'est une pièce humide dans laquelle on va disposer les animaux qu'on souhaite garder en vie, coquillages et crustacés. C'est une pièce qui a été faite en grande partie pour les langoustines de l'Orient. En fait, on va aller chercher de l'eau en mer, la traiter, la dépolluer au rayon, au charbon actif pour la rendre potable. Alors le but, évidemment, c'est pas de la boire, ça reste de l'eau de mer, mais c'est de pouvoir la pulvériser sur les différents crustacés qu'on va garder ici. Dans cette chambre froide, on aperçoit une autre porte tout au fond qui donne accès à une autre chambre froide qui est là, beaucoup plus froide et beaucoup moins humide. Dans la première chambre froide, où on garde les animaux vivants, il va faire en gros entre 7 à 9 degrés. Dans la seconde chambre froide, où il fait beaucoup plus sec, il va faire entre 1 et 3 degrés.
Ils sont endormis, voire morts.
Ah bah là, là c'est des poissons qui sont morts. Or, pas forcément d'ailleurs, puisqu'on va pêcher certains poissons comme la roussette. La roussette a cette capacité d'absorber de l'eau de mer et de rester en vie pendant un certain nombre d'heures.
Comme le chameau.
Comme le chameau.
Qui sont ces gens qui achètent ?
Donc les professionnels qui viennent ici acheter sont des restaurateurs, des poissonniers et en très grande majorité des mareyeurs. Imaginons un poissonnier qui travaille à Strasbourg, c'est pas lui qui va venir tous les matins acheter son poisson. Donc il va faire appel à des mareyeurs, en fait à des grossistes.
Alors la poissonnerie elle se situe au plein centre du bourg de Saint-Briac et on est là depuis 1992. Donc ça fait déjà quelques années, c'est la poissonnerie Hainaut. Patrick, c'est notre frère. En fait, on travaille en famille, quoi. On est les deux sœurs et on a une autre poissonnerie à Lancieux. La même chose, c'est une petite sœur qui tient ça aussi. Et on adore Saint-Briac, nous, on se plaît bien ici.
Et puis j'imagine qu'en plus, si vous travaillez avec les pêcheurs du coin, vous connaissez vraiment tout le monde, quoi.
Ah oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai. Et puis on est nés, en plus, on est natifs de Lancieux. Donc la commune d'à côté, donc c'est vrai qu'on connaît plein de monde. Et plein de monde nous connaît. Mon mari était pêcheur, il a été pêcheur 30 ans, 28 ans, Jean. Et nos deux frères, on a eu, les deux frères sont, il y en a un qui est en retraite maintenant, et l'autre, Lionel, qui nous amène toujours les coquilles Saint-Jacques, lui. Et un beau-frère qui était marin pêcheur aussi. Oui, oui, c'est une affaire de famille, quoi.
Messieurs les poissonniers,
je m'appelle Nathalie Brien, voilà, j'ai 53 ans, j'habite Lancieux et je travaille à Saint-Briac, la poissonnerie. Voilà.
Et alors c'est quoi le métier de poissonnière ?
C'est de vendre du poisson, d'accueillir les clients gentiment, de leur préparer le poisson et puis et des coquilles Saint-Jacques, des crustacés, des huîtres, des crabes, tout ce qui a rapport avec la mer, salé, la mer, pas l'eau douce.
Quand vous dites que vous préparez le poisson, qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors le vider, éviscérer si vous voulez, donc vider, couper les têtes, écailler le poisson, et puis les coquilles, c'est les décortiquer, les enlever de la coquille pour ne garder que la noix qui se mange. Fileter les poissons, donc c'est les mettre en filet pour pas qu'il y ait d'arêtes pour les enfants. Voilà.
Alors moi, quand vous me dites mettre un poisson en filet, j'ai l'impression que vous le mettez dans un sac. Ça veut dire quoi exactement, le mettre en filet ?
Non, c'est le couper sur la longueur et enlever l'arête du poisson pour que, voilà, que les enfants puissent les manger sans problème, même les adultes. Okay.
Et alors, votre poisson, vous l'achetez où ? Comment est-ce qu'il arrive dans votre poissonnerie ?
Alors, il arrive ou par la criée, on va la criée d'Erquy ou de Saint-Malo, ou alors par les pêcheurs en direct, par les petits pêcheurs du coin, quoi. Notamment pour la coquille Saint-Jacques, c'est les pêcheurs. Et la criée, donc, c'est un lieu où tous les petits pêcheurs amènent leurs poissons. Et nous, les poissonniers, on va l'acheter directement là-bas. Voilà.
Et alors ce matin, qu'est-ce qu'il y a à vendre ?
Alors ce matin, on a du saumon. Mais alors le saumon, ça c'est du poisson d'élevage, donc qui n'est pas pêché par les pêcheurs d'ici. Il est pêché en Écosse plutôt. Et autrement, on a du merlu ou autrement colin. On peut dire merlu ou colin, c'est le même poisson. Du lieu jaune, de l'encornet, de la sole, du rouget barbet, de la dorade grise, de la barbue, du maquereau, des merlans et du bar. Et de la limande sole et des filets de merlan.
Et est-ce qu'il y a une saison dans les poissons comme pour les fruits et légumes ?
Oui, la saison. Chez nous, il y a tous ces poissons-là. En fait, on ne travaille que du poisson local, nous, sauf le saumon. Donc, c'est la saison de tous ces poissons-là, quoi. En fait, on les trouve tous à ce moment-là, quoi.
Voilà. Donc c'est que du poisson qui est pêché dans l'Atlantique, dans la Manche.
Oui, c'est ça, dans la Manche et puis tous les jours, quoi.
Du poisson.
Qu'est-ce qui est agréable dans le métier de poissonnière ?
De recevoir les clients, c'est sympa, quoi, d'avoir des clients tous les jours, discuter avec eux et puis d'y avoir du poisson frais, c'est sympa aussi, quoi, de voir de la belle marchandise. Non, c'est bien. Moi, j'aime bien voir du monde, j'aime bien discuter, donc c'est bien. Les gens font bien plus attention à la provenance du poisson. Ouais, c'est ça, par contre, avant, ils s'en préoccupaient pas du tout. Maintenant, c'est tout le temps. Hein. La provenance, l'élevage, comment c'est fait, comment... Voilà.
Okay. Ouais. Et y a pas, du coup, vous n'avez pas remarqué qu'il y avait moins de poissons à arriver, que la mer était
moins fourrée. Les maquereaux, il y en a beaucoup moins. Alors, apparemment, ça serait le réchauffement, justement. Et autrement, non, ça va. Hein, les autres poissons, ça va. Oui, les coquilles, ça va aussi. C'est... Non, surtout le maquereau.
Le port de pêche de Lorient, c'est le port de pêche le plus éclectique de France. On va trouver ici plus d'une soixantaine d'espèces de poissons différentes.
Les poissonniers de Strasbourg ont tout intérêt de dire que leur poisson il vient de Lorient ?
Des poissonniers de Strasbourg de dire que leur poisson vient de Lorient, en sachant que le port de pêche de Lorient envoie ses poissons un peu partout en France et en Europe. On envoie aussi du poisson jusqu'au Japon ou au Qatar. Donc il y a de grandes chances que vous ayez déjà mangé du poisson qui a été pêché à Lorient, que vous le sachiez ou non.
Michel, chauffeur chez Espèce Marée.
Et alors il y a plein de camions ici, et vous du coup vous venez récupérer le poisson ici pour l'emmener où ?
Oui, alors donc on a pas mal de chargements à faire sur la Bretagne. Donc tout vient après à quai sur notre quai. Et puis de là, après, nous descendons après sur plusieurs directions. Donc sur La Rochelle, Bordeaux, Agen, Toulouse, Lézignan-Corbières, qui est après qui est dispatché sur toutes les directions du bassin méditerranéen plus Atlantique.
Donc à Marseille, on peut manger du poisson breton.
Exactement, c'est vrai.
Le bruit qu'on entend là, c'est le bruit du camion réfrigéré, quoi.
C'est celui qui est à côté, oui, ça c'est pas le mien, c'est celui qui est à côté qui est prêt aussi à partir dans très peu de temps là.
Mercredi. Mercredi est la meilleure radio del mondo.
Le poisson qu'on envoie au Japon, on va l'envoyer vivant très souvent. Donc c'est assez complexe, ça demande une grande maîtrise technologique, un grand savoir biologique aussi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'avec Fukushima, les Japonais ne peuvent plus pêcher autant qu'avant. Il y a une grande culture de la consommation du poisson cru. Quand vous voulez manger du poisson cru, il vaut mieux qu'il ait été tué il y a très peu de temps. Donc on leur envoie du poisson vivant. On ne fait pas ça pour toutes les espèces, hein, seulement pour certaines, mais on arrive à pêcher ces poissons, les mettre dans des aquariums particuliers où on va pouvoir régler la pression, la température. Avec la baisse de l'eau, avec la baisse de la température de l'eau, les poissons vont s'endormir, on pourrait dire, tomber en hibernation, en tout cas être vraiment dans un métabolisme ralenti. On va pouvoir à ce moment-là les sortir de l'eau, les mettre dans des caisses avec de la glace pour les garder au frais. On met les caisses dans les avions vont jusqu'au Japon, et au Japon, les poissons vont subir le process inverse.
Tout ça donne faim. On nous a dit qu'il y avait des restaurants sur le port de Lorient. Avec Maëlle, on décide d'y aller. Est-ce que vous avez du poisson ?
Merci.
Oui.
Cool.
On fait en brochette ici, par contre.
D'accord. Ok.
Peut-être même que je vais prendre des brochettes de thon.
Thon, merlu au chorizo, saumon, méli-mélo, merlu Saint-Jacques, Saint-Jacques.
La Saint-Jacques est devenu un produit de luxe. Nous fixons son prix en fonction de son cours.
Demandez la cuisson de votre poisson. Je savais pas qu'il y avait plusieurs manières de cuire le poisson. Bon, eh bien, j'ai la dalle.
Ouais, moi aussi, j'ai la dalle.
Ah, les brochettes d'enfants. Quand on achète du poisson pané, comment est-ce qu'on peut savoir d'où il vient, le poisson pané ?
Alors, normalement, maintenant, quand on achète du poisson chez le poissonnier, quand on l'achète entier, on est censé savoir où il a été pêché, et ça veut dire dans quelle zone de pêche, et comment il a été pêché. Maintenant, ce n'est pas forcément le cas sur les produits transformés, ce qu'est le poisson pané. Même si c'est quelque chose de compliqué, l'objectif, c'est que dans quelques années, un consommateur puisse avoir l'ensemble de l'histoire de son poisson à partir d'un QR code, on imagine. Que chacun des acteurs de la filière soit doté d'un numéro, d'une liste alphanumérique, d'une suite alphanumérique qui le représente. cette liste petit à petit elle grandirait. Et comme ça, notre consommateur qui va dans la poissonnerie, il peut flasher un poisson et voir que ce poisson est passé par les mains de Yann, le pêcheur, et qu'il a été découpé par Jean, puis transporté par Simon, etc., etc. Le but, c'est vraiment d'avoir une traçabilité qui soit optimale. Quand un restaurateur achète ses 20 filets de poisson, en fait, les 20 filets de poisson qu'il achète à un mareyeur, le mareyeur, lui, il les aura constitués peut-être à partir de 20 caisses différentes de poissons. Ou même, on imagine juste de 5 caisses différentes de poissons. Mais peut-être que dans ces 5 caisses différentes de poissons, on aura des poissons qui auront été pêchés évidemment par le même pêcheur, mais peut-être pas au même endroit ou peut-être pas au même moment. Donc ça implique particulièrement pour les mareyeurs une gestion de la traçabilité qui est énorme. Donc c'est assez complexe à mettre en œuvre, mais on a de plus en plus de démarches qui sont, voilà, de plus en plus d'actions qui sont mises en route pour aboutir à ça.
Merci Malo de nous avoir permis de bien comprendre le parcours de la pêche du poisson. Je t'ai présenté au début en disant que tu es médiateur scientifique. Peut-être que tu peux nous expliquer ce que c'est ton travail.
Alors qu'est-ce que c'est un médiateur scientifique ? C'est pas un professionnel d'une activité autre que la médiation, autre que le partage d'informations et de savoirs. Moi, mon métier, c'est d'essayer d'en apprendre un maximum sur un sujet, d'aller voir un maximum de professionnels, un maximum de scientifiques, d'écouter tout ce qu'ils ont à me dire et d'essayer de répéter ça de la façon la plus sympa et la plus pertinente possible à tous les publics. En l'occurrence, la Maison de la Mer, c'est une association qui existe depuis 30 ans et qui a vocation à éduquer à la mer et au littoral tous les publics, de la maternelle jusqu'à la fac, de 7 à 77 ans. Moi-même, je travaille à destination des classes d'études portuaires, donc qui sont des animations à destination des professeurs et des élèves. J'ai une collègue qui travaille pour le grand public, mais aussi pour les entreprises. On a par exemple des entreprises qui peuvent faire appel à nous pour former leurs employés qui travaillent à la découpe du poisson, pour connaître un peu mieux le reste de la filière. Donc la Maison de la Mer fait un travail qui est assez vaste, aussi bien dans son format que dans son contenu, que dans ses cibles. Je parle de son contenu aussi. Aujourd'hui, je vous parle de la pêche, mais nous parlons aussi des énergies marines renouvelables, de l'aménagement du littoral, enfin bref, de tout ce qui a un lien avec les sciences et la mer en général.
Alors j'espère que c'est plus clair maintenant pour vous. Le parcours d'un poisson de son univers naturel qui est la mer à son univers moins naturel qui est nos bidons. Et que mieux on choisira le poisson, meilleur c'est pour nos bidons aussi. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Malo, le chauffeur de camion, le capitaine du bureau de pêche, Nathalie la poissonnière. Merci à Maëlle qui l'a préparé avec moi. Et dans cette émission, si vous voulez réécouter la musique, sachez que ça a commencé avec Bande de Rolé, Solta o Frango. Ça a continué avec une musique d'une comédie musicale incroyable, Armorica, Terre de pêcheurs. Morceau que j'ai découvert grâce à un musicien qui s'appelle Cachette à branlette. Et on a écouté aussi un morceau de Juliette Gréco et un morceau des Meridian Brothers, La Gitana me ha dejado. Finissons cette émission avec de quoi se mettre en appétit la recette maison du poisson pané. Ou autrement nommé par un enfant que je connais, le poisson normal.
Mercredi.
La recette du poisson pané maison. Alors ça, c'est Isabelle qui va mercredi. Vous la donner parce que moi, je suis une très mauvaise mercredi. Cuisinière.
Poisson pané maison, et ben, il faut battre des œufs en omelette, mercredi. Passer les poissons dedans et après dans la chapelure et après à la poêle.
Et peu importe le poisson ?
Peu importe le poisson.
Okay. En fait, c'est tout simple du coup.
En filet. Oui, c'est tout simple, oui.
Et vous en faites souvent ?
Et bien meilleur qu'industriel.